Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 17, pour une phrase extraordinaire dans son contenu et dans l'ouverture spirituelle qu'elle place devant nous. Voilà ce que Jean écrit: « Tel il est, tel nous sommes dans le monde ». Et notez bien que Jean a écrit ceci et qu'il n'a pas écrit tel il était sur la terre. Vous avez compris de qui il s'agit quand je dis il, de Jésus, mais il est bon de le rappeler. Il n'a donc pas écrit tel Jésus était sur la terre, c'est-à-dire humble, faible, pauvre. Mais il a écrit tel il est présentement, où ? Dans le ciel, ressuscité, glorifié, intronisé, plein de force, d'autorité, de puissance et de grâce. Tel il est. Et il n'a pas écrit non plus « tel il est, tel nous serons dans les cieux ». Mais il a bien écrit « tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Et là, quelque part, nous disons réellement « tu as écrit ça, Jean ». Parce que, disons, mais quel défi! Tel il est, tel nous sommes appelés à être nous aussi dans ce monde. Alors il est important de comprendre ce que Jean veut nous enseigner à travers cette expression « tel nous sommes ». Deux choses. D'abord, il nous parle de notre nouvelle nature. Parce que nous croyons que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Non pas par la chair ou le sang, non pas en retournant dans le ventre de notre mère, mais nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. C'est notre nouvelle nature, une nouvelle vie. Et nous croyons aussi que, attachés à cette nouvelle nature, nous a été accordée une nouvelle position. Une position auprès de Dieu, à laquelle, nous allons le voir, sont attachés de nombreux avantages. Une nouvelle nature, une position spirituelle, et toutes les deux nous disent ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, à travers cette nouvelle nature et à travers cette position. Et je crois que c'est merveilleux de considérer que c'est ainsi que Dieu nous voit. Il nous voit d'abord à travers Jésus, tel il est, tel nous sommes. Il nous voit à travers cette nature que Christ nous donne, à travers cette position qui découle de cette nature. Cette nouvelle nature et cette position sont directement liées à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et toutes les deux sont complètes. Le Seigneur a dit « tout est accompli ». Et toutes les deux sont parfaites. Parce que de Christ ne peut venir que le parfait. Et toutes les deux natures et positions sont inébranlables et immuables. Et elles ne peuvent donc ni évoluer, ni s'améliorer, ni même se détériorer. Et elles ne dépendent pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Et elles ne dépendent pas des circonstances de la vie. Cependant, à côté de ce premier état, nature et position en Christ, il en existe un second, relatif à notre existence. Relatif à la condition que nous menons dans cette vie. Et alors peuvent surgir beaucoup de frustrations et même des déceptions dans la vie chrétienne si jamais nous faisons confusion entre ces deux états. Entre d'une part la nouvelle nature et la position, et d'autre part l'existence et la condition. Car si notre nature en Christ est, comme nous l'avons dit, parfaite et inaltérable, notre existence est loin d'être aboutie. Et elle demeure fluctuante, avec des hauts, mais aussi des bas, parfois même très bas. Il existe donc un décalage entre ce que la Bible proclame concernant notre nouvelle nature et notre position en Christ auprès de Dieu et la réalité de notre existence et de notre condition. au point que les deux semblent parfois en contradiction. Et nous disons, voilà ce qui est écrit dans la Bible concernant le chrétien. Et, Seigneur, voilà ce que je vis. Et certain que si nous ne faisons pas la différence entre les deux, nous allons faire face à de nombreuses désillusions. Maintenant, afin d'écarter toute confusion et tout découragement, je veux par cet enseignement non seulement bien clarifier ce que sont ces deux états, nature, position, existence et condition, mais je voudrais surtout vous montrer la voie pour vivre, non pas selon notre existence, selon notre condition, mais pour vivre tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parlons maintenant, dans ce premier point, de notre nature et de notre position en Christ. Par la foi en Jésus et le renouvellement du Saint-Esprit, nous héritons d'une nouvelle nature. Dieu n'a pas amélioré l'ancienne nature. Elle est irrécupérable. Il nous en a donné une nouvelle. Et il ne nous a pas donné n'importe quelle nature, n'importe quelle vie. Il nous a donné la vie de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Et la vie de Christ, c'est une vie de nature divine, parfaite et immuable. Et cette vie est en nous. Et comme l'apôtre Pierre l'écrit, par cette vie nous sommes rendus participants de la divinité. C'est extraordinaire quand on le considère quand même. Nous avons donc reçu une nouvelle nature par la foi en Jésus et l'action du Saint-Esprit. Et de là découle une nouvelle position auprès de Dieu. Autrefois, nous étions séparés, loin de Dieu. Maintenant, Dieu nous voit comme Christ. Il nous voit à travers le Seigneur. Et tout ce qu'il voit en Christ, il le voit en nous. Parce que c'est Dieu qui dit « tel il est, tel vous êtes, tel nous sommes ». À cette position qui découle de notre nouvelle nature sont associées les plus grandes et les plus précieuses promesses, dit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître. Alors je voudrais quelques instants que nous nous arrêtons sur quelques-unes de ces choses qui sont associées à notre position découlant de notre nouvelle nature. Ce sont des choses extraordinaires quand on les considère. Bien sûr, il faut avoir reçu l'Esprit du Seigneur pour mesurer la beauté de ces choses, parce que la Bible nous le montre, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, l'homme naturel ne peut pas comprendre la valeur de ces choses, ce sont des biens spirituels. Mais le Seigneur nous apprend à les découvrir, nous-mêmes les avons-nous bien compris, c'est peut-être pas sûr, tellement la richesse en est grande, mais nous apprenons à les découvrir. La première des choses, c'est que oui, nous sommes de nouvelles créatures, ce que j'étais n'est plus, je suis maintenant quelqu'un de nouveau en Jésus-Christ. Et ce qui est glorieux, c'est que je peux dire, oui, je suis incorruptible, je suis immortel. Alors certains vont dire, ouh, le pasteur il chauffe ce matin. Mais je vais vous dire, je ne le dis pas par ma force, je ne le dis pas de ma propre vie, je le dis de la vie de Christ qui est en moi. Et nous pouvons le dire chacun d'entre nous, par la vie que nous avons reçue du Seigneur, nous sommes immortels, nous avons déjà vaincu la mort. La Bible nous dit, comme nous allons le voir, nous sommes ressuscités et éternels. Nous pouvons le dire aussi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Non pas des petits-enfants, mais des fils. Des filles héritiers, co-héritiers, c'est-à-dire au même rang que Christ. Nous qui étions loin, Dieu nous a élevés et il nous dit, mais je t'associe à mon fils et tout ce que mon fils a est à toi. Fais de nous des sacrificateurs royaux. Je le mentionnais, c'est ce que Paul nous rappelle dans les Éphésiens, nous sommes déjà ressuscités. Et nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas à venir, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est tous les avantages de notre position spirituelle. Marqué aussi sur la diapo, nous sommes membres du corps de Christ. Tout ceci, c'est le don de Dieu. La manifestation de son amour envers les hommes. La démonstration de sa grâce surabondante. Maintenant, il a plu à Dieu afin de donner encore plus de force à ses dons, de les inscrire dans un cadre légal, bien défini. Un cadre dans lequel il s'engage. Un cadre duquel il ne sortira pas parce qu'il est juge et qu'il applique le cadre légal. Et ce cadre, c'est celui de l'alliance. Pour le compte, l'alliance de la rédemption en Jésus, qui peut se résumer ainsi, Romains 4, 25, Christ a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons déclarés justes. Dans ce cadre légal, dans cette alliance dans laquelle, je vais dire, Dieu s'astreint de demeurer, s'est engagé à demeurer, eh bien, tous les avantages liés à notre nouvelle nature et à notre position sont garantis. Dieu nous les garantit. Il les garantit par Jésus lui-même. Hébreux 7, 22, Jésus est le garant. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Dieu ne les conditionne pas. À ses enfants, à tous ceux qui ont cru en Jésus, toutes les promesses sont pour eux. Elles sont pour nous. Quant à l'homme, c'est par la foi qu'il rentre dans cette alliance. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos mérites, ce n'est pas par une lignée, une généalogie, ce n'est pas ni même par de l'argent, surtout pas. Mais la foi en Jésus déclenche une première décision de justice. L'apôtre Paul nous dit que l'homme est déclaré juste par la foi, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 24 et 28. Et dès cet instant où il croit et où Dieu le déclare juste, alors il reçoit dans son cœur cette assurance qu'il est en paix avec Dieu, qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de condamnation et qu'en plus il est désormais libre. Libre de la puissance du péché et de la mort elle-même. Et dès cet instant, cet homme-là est mis automatiquement par les garanties de l'Alliance au bénéfice des avantages de l'Alliance. Par l'autorité qui est la sienne, un juge peut proclamer telle ou telle sentence en accord avec les lois qui régissent son activité. Et la sentence du juge a force de loi. Il en va de même pour Dieu qui est juge. Et il proclame sur la vie de ceux qui croient en son Fils les bénédictions de l'Alliance. Ceci à la manière d'une sentence rendue par un juge dans un tribunal. Et autrement dit, ce que Dieu nous dit, c'est une déclaration de droit. Ce sont des choses qui ont force de loi, universellement et intemporellement. Les bénédictions de l'Alliance sont donc des droits légaux incontestables. Je suis sauvé, je suis délivré de la puissance du péché, de Satan, de la crainte de la mort. Je suis enfant de Dieu, je suis héritier du grand roi, je suis assis dans les lieux célestes. Ça, ce sont mes droits. Et dans un pays où on aime revendiquer nos droits et même ceux que nous n'avons pas, n'ayons pas peur de proclamer ce que Dieu nous accorde. Parce qu'ils ont été acquis à un grand prix. Le sang de Jésus. Il a fallu le sang de Jésus pour nous ouvrir ses droits et nous y donner accès. Ces droits disent ce qu'est notre nature. Ces droits, c'est notre réalité. Cependant, s'il n'y avait que cet aspect légal, il nous conduirait à une espèce de formalisme et de religion figée sans grand impact. C'est ce dont se contentent beaucoup de chrétiens. Ils croient dans un ensemble de doctrines, et ils croient dans toutes ces choses que je viens d'énoncer, tous les avantages, la nature et la position, ils y croient, mais ils y croient d'une manière mécanique, et ils y croient, mais pas pour maintenant. Ils y croient pour plus tard. Alors certes, pour prix de leur foi, lorsque Christ reviendra chercher son Église, ils hériteront, recevront tout ce en quoi ils auront cru. Néanmoins, ils seront passés à côté de la mise en application de la justice de Dieu ici-bas. Or, encore une fois, il n'est pas écrit « tel il est, tel nous serons là-haut », mais « tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Maintenant, une décision de justice est une déclaration d'autorité permettant de déclencher une action. Le juge rend sa sentence et cette sentence proclamée permet d'engager une action. C'est une bonne chose de dire « j'ai une décision de justice en ma faveur ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Je ne parle pas là sur un plan spirituel, je parle vraiment dans une cour de justice. Un juge a tranché en votre faveur. C'est bien, magnifique, nous avons gagné le procès. Oui, mais en rester là, c'est manquer l'essentiel. Parce que le but de la justice, c'est que oui, elle soit rendue afin d'être appliquée. Et trop de chrétiens passent à côté de cela, en pensant que les décrets, les sentences de la justice divine, les concernant, concernant notre nouvelle nature, concernant notre position, c'est pour là-haut. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. L'été dernier, je prêchais un message appelé « Autorité et puissance », vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, mais je voudrais revenir sur quelques points pour nous rafraîchir ces choses. L'autorité est un pouvoir qui donne un droit légitime d'agir et d'imposer une certaine vue, par exemple une décision de justice. L'autorité est un pouvoir. La puissance, elle, est une capacité d'agir et d'imposer ses vues. L'autorité peut être légitime et légale, mais si elle ne dispose pas de la puissance, elle est vaine. Si on rend la justice, mais qu'il n'y a personne pour faire appliquer la justice, ça ne sert à rien. C'est pour ça que depuis Monsieur de Tocqueville, mais je vais vous dire que c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, nous avons appris à comprendre qu'il y a trois pouvoirs. Le législatif qui fait les lois, le judiciaire qui rend la justice et l'exécutif qui permet l'accomplissement. C'est écrit déjà dans le livre du prophète Ésaïe. Il y a un endroit, j'ai oublié le chapitre, mais où il dit que Dieu est juge, Dieu est législateur et Dieu fait exécuter ses sentences. C'est déjà assez révélateur. La puissance est donc indispensable. C'est pour cela que malgré une décision de justice en bonne et due forme, il faut parfois avoir recours à la force de police pour faire exécuter la sentence du juge. Nous tenons entre nos mains le livre des décisions de justice divine, qui concerne notre nouvelle nature, notre position et tous les avantages garantis par Dieu. Et tout ceci est authentique et légal. Cependant, dans le monde déchu dans lequel nous vivons, la mise en œuvre, l'exécution de ces décisions de justice nécessite une puissance. Une puissance contre ma chair. Une puissance contre le péché, l'iniquité, la corruption qui existe dans ce monde. Une puissance contre la maladie. Une puissance d'exécution contre la malédiction. Une puissance d'exécution contre Satan. Une puissance d'exécution contre la mort elle-même. Et quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la justice divine, de l'autorité divine. Il est la puissance de l'autorité divine. Il a pour mission de mettre en œuvre, de faire appliquer les décisions de la justice divine pour qu'elles deviennent des réalités dans notre vie. par l'autorité de la justice divine et la puissance du Saint-Esprit, je peux faire face au péché, lui résister et proclamer mes droits en Jésus et lui dire, comme il est écrit dans Romains 6, en Christ, je suis mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Par l'autorité de la justice divine et la puissance d'exécution du Saint-Esprit, je peux faire face à la culpabilité et proclamer mes droits en Christ et dire il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, Romains 8, 1. Par l'autorité de la justice divine et la puissance d'exécution du Saint-Esprit, je peux résister à Satan et proclamer mes droits en Jésus et lui dire « Christ m'a délivré du pouvoir des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour où tu ne peux rien contre moi et contre ma famille ». Par l'autorité de la justice divine et la puissance d'exécution du Saint-Esprit, je peux même faire face à la mort et proclamer mes droits en Christ en disant « La mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire ? Peut-être tu l'emporteras sur mon corps, mais sache que ce sera que pour un temps. Mais en tout cas, tu ne peux rien contre mon âme. » Ainsi, par l'œuvre rédemptrice de Jésus, nous obtenons par la foi des droits légaux auprès de Dieu. Une nouvelle nature, certie de multiples avantages, dont nous pouvons revendiquer la mise en œuvre par la puissance du Saint-Esprit dans ce monde. Ayant parlé de notre nature et de notre position, abordons maintenant notre existence et notre condition. Et là, nous parlons de cette vie, notre vie, issue de la chair et du sang, une vie qui est ballottée par toutes sortes de situations physiques, morales, sentimentales, matérielles, spirituelles. Et si nous avons dit que notre nature est éternelle, notre existence, elle est bien temporelle. Si notre nature est parfaite, notre existence est loin d'être aboutie. Elle est dans un processus évolutif permanent de progrès et malheureusement aussi d'échecs. Si notre position est inébranlable, notre condition, elle est fluctuante, souvent liée aux aléas de la vie. Il existe donc ce décalage dont j'ai parlé entre ce que la Bible proclame concernant notre nouvelle nature et notre position et la réalité de notre situation et de notre existence. Et cela est directement lié à la mise en œuvre concrète de la justice de Dieu dans notre vie. Nous devons vraiment faire attention à distinguer les deux concepts, les deux états, nature et position, condition et existence, c'est très important. Et je voudrais que vous notiez ceci, le salut ne dépend pas de notre existence, il ne dépend pas de notre situation, il dépend de notre nature. Il dépend de notre nature. Et face aux infidélités de notre existence, aux fluctuations de notre condition, comme nous l'avons chanté, l'amour de Dieu ne change jamais. Nous sommes infidèles. Dieu est fidèle. Et rien ne pourra venir altérer notre nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean a écrit cette phrase extraordinaire, l'homme nouveau ne peut pas pécher, parce qu'il est incorruptible. Et aucune maladie, aucune puissance ne pourra nous séparer de Dieu. Parce que ni la maladie, ni aucune puissance, ni la mort elle-même ne peuvent atteindre la position dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ auprès de Dieu. Maintenant, si nous voulons vivre ici et maintenant les avantages garantis par la justice divine, il est clair qu'il nous faut combler la mesure. Il faut que le décalage se résorbe et disparaisse. Comment ? L'apôtre de l'Épître aux Hébreux nous le dit, en cherchant la sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et qu'est-ce que la sanctification, sinon la mise en application par le Saint-Esprit de la justice de Dieu dans nos vies ? Nous avons reçu la justice de Dieu par la foi. Maintenant, elle doit être activée. Elle doit être exécutée en nous. Comment ? Est-ce par notre force ? Est-ce par la religion ? Est-ce par un commandement ? Absolument pas. Tout cela est vain. Avons-nous reçu de la part d'un juste sur la terre une décision de justice qui nous est favorable ? Mais si nous avons en face de nous quelqu'un qui ne veut rien entendre, ce n'est pas par notre force que nous allons y arriver, mais nous appelons la police. Nous appelons peut-être un huissier, et eux ont la puissance et la capacité d'agir. Face à toutes ces choses, péché, maladie, malédiction, Satan, la mort, la condamnation, la culpabilité, ce n'est pas par notre force que nous allons triompher, mais par le Saint-Esprit, l'agent de la force exécutrice divine. Et la sanctification, ce besoin de sanctification qui consiste donc à combler l'écart qui nous sépare de notre nature et de notre position, témoigne justement d'un conflit qu'il y a en nous. Un conflit entre cette nature que nous recevons et notre existence qui est là. Entre cette position dans laquelle nous voulons vivre et la condition qui est la nôtre. Il y a donc un conflit qui est là. Nous voudrions faire le bien et il y a une force qui est en nous qui nous pousse à faire le mal. Tout ce que nous ne voulons pas faire, c'est là. Et alors, il nous faut faire face aux faiblesses de notre chair, aux faiblesses de notre âme. Et souvent, nous trébuchons. Pasteur Glenn Arecchion a écrit que la justice est dans l'esprit humain. Mais la chair conserve son essence charnelle et sa tendance au péché. D'où ce décalage, ces tensions, ces frustrations. Et véritablement, par moment, il y a de quoi venir schizophrène. Je veux dire, c'est ce que Paul dit dans Romains 7, 24, quand il a considéré d'un côté le bien qu'il veut faire et de l'autre côté cette loi qui habite en lui, qui s'appelle la loi du péché, il finit par s'écrier « Misérable que je suis ! Mais qui me délivrera du corps de cette mort ?» Le corps de cette mort, c'est celui qui a été crucifié à la croix. C'est cette vieille nature dont nous voulons nous débarrasser. Mais ce que Paul nous dit, c'est qu'elle est là comme attachée à nous. Un espèce de cadavre en putréfaction. Oh, il est là. Et vous savez quoi ? Il empeste nos pensées. Il empeste nos journées. Et on voudrait, mais qui va m'en délivrer ? Qui va m'en délivrer ? Parce que je veux vivre ma nouvelle nature, je veux vivre ma position, je veux pas constamment être tiré vers le bas par ce cadavre puant. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, dit-il. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Christ, non seulement le cadavre a été cloué à la croix, la vieille nature a été clouée à la croix pour que ça ne soit plus qu'un cadavre. Mais ensuite, le Saint-Esprit vient et il vient trancher les liens qui nous attachent à cette vieille nature. Et il vient rompre les uns après les autres ces liens pour nous débarrasser de ce cadavre dont nous ne voulons plus afin de vivre pour Christ. Il y a des victoires qui sont immédiates. Il y en a d'autres qui demandent de la persévérance, de la prière. Mais je vous dis ceci, ne lâchez jamais. Ne lâchez rien. Ne négociez rien. N'essayez pas de trouver des compromis. Mais criez à Christ comme Paul l'a fait. Seigneur, je voudrais, mais j'y arrive pas. Viens au secours de ma misère. Je peux vous dire que la puissance du Saint-Esprit sera là. Seigneur, tu m'as donné des droits, je veux les vivre. Christ a acquis pour moi des droits légaux, je veux les vivre, Seigneur. Je veux pas vivre ma vie, Seigneur, selon les principes de l'existence, selon les fluctuations de ma condition, de ma situation. Je veux vivre ma vie telle que tu es. D'après cette nouvelle nature et d'après ma position céleste. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce qu'est la réalité de la vie chrétienne. C'est pas pour demain. Ça, c'est le diable qui essaie de nous dire c'est pour demain. Parce qu'il veut nous garder bien enfouis, là, la tête sous l'eau, dans la boue. Nous devons nous lever en lui disant, j'ai des droits. J'ai des droits. Et c'est pas moi qui vais les mettre en application. La seule chose que je peux faire, c'est lui dire non. Et je dois le faire. Mais je sais que celui qui vient quand je dis non, c'est le Saint-Esprit. Et il te donnera la victoire. Pour que tu vives pleinement tout ce que Christ a acquis pour toi et que Dieu a proclamé sur ta vie. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père. Oh, que la vie chrétienne est extraordinaire quand nous mesurons ce que tu as prévu pour nous et combien trop souvent nous passons à côté de toutes ces choses. Mais la connaissance de ta parole nous éclaire et la révélation que ton esprit nous apporte, Seigneur mon Dieu, nous donne de la force. Et ce matin, oui, nous le disons, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une vie, Seigneur, régie encore par la puissance du péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre une vie soumise aux aléas de la vie, aux aléas de tout ce qui pourrait se passer autour de nous. Nous voulons vivre une vie d'après la nouvelle nature de Christ, d'après la position que nous avons en Jésus. Alors, oui, nous avons compris que nous avons des droits. Ils ont été acquis pour nous à la croix par Jésus-Christ. Et nous avons compris que tu nous as donné non seulement une autorité, mais aussi une puissance dans le Saint-Esprit. Pour combler la mesure, afin, Seigneur mon Dieu, que le vieux cadavre soit arraché de nos vies, pour que nous puissions vivre comme tu le veux. Seigneur, je veux vivre tel que tu es. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.